On prend le premier paragraphe. Hayosher, vous m'entendez? Parce que j'ai oublié. Hayosher, hu adavar hayoter ikari bahavaya. Vous voyez, bien que nous sachions que dans la Havaya, dans l'être, il y a les rigoulim, à la limite la nature, et le yosher, la valeur de la personne humaine, c'est le yosher qui est la chose la plus essentielle dans l'être. Vous voyez, dès la première proposition, le Rav Kook fonde l'option du judaïsme. Je répète, ayosher, hu adavar hayoter ikari bahavaya. C'est une option du monothéisme juif absolu. C'est bien clair pour tout le monde, c'est pas difficile. Ha'igulim, hinam tefelim lo. Les igulim, et ça veut dire la nature, en tous ces mondes, et c'est colossal, la science moderne commence à découvrir l'immensité du monde des mondes. Okay? Et hinam tefelim lo, ça veut dire son contingent par rapport au yosher. Et vous voyez que ça semble aller à contre-courant de la conscience positiviste moderne, contemporaine, de l'homme écrasé par sa découverte des igulim, par sa découverte des mondes, et relativisant au maximum le mystère de la présence de l'homme dans ces mondes, oubliant, je fais allusion à certaines analyses du cours précédent, oubliant que c'est quand même l'homme qui fait la science, et non pas la science qui fait l'homme, si j'ose dire. Et c'est très important pour notre culture contemporaine de savoir que la ligne du judaïsme authentique continue à passer par là. Monothéisme intégral, mais l'accent mis sur le Kavayosher, c'est-à-dire sur la Shechina, la présence de Dieu au monde et son problème avec l'homme et les hommes. Je pense que c'est suffisamment clair. Cloma, et lorsque je veux dire, je cite le Rav, lorsque le Rav veut dire le Yosher, Cloma, c'est-à-dire Chofe Shachaim, la liberté de la vie, de ce qui est vivant. Vous voyez que nous sommes de nouveau au niveau du régime du vocabulaire moral. Et alors que nous aurions tendance à découvrir cependant que la vie elle-même est soumise au déterminisme des Aïgoulim, c'est-à-dire de la nature, nous sommes renvoyés directement à l'essentiel qu'il y a liberté dans la vie. Et encore une fois, s'il n'y a pas liberté, il ne peut pas y avoir responsabilité, donc pas de morale, et donc le chaos humain de la civilisation contemporaine, si elle ne prend pas garde qu'elle est humaine et pas simplement scientifique. Achofesh amochlat, alors nous sommes encore renvoyés plus loin, pas la liberté quasi conditionnée, mais la liberté vraiment, la liberté amochlat absolue. Mitzad mekorachayim, qui se définit ainsi du côté de la source de la vie. Nous dirions en langage kabbaliste, de la source de ce kavayosher qui est lumière. Achofesh shebamusag haeloki, la liberté dans la signification que cela a, en tant que liberté dans sa notion divine. Ça veut dire liberté absolue, vraiment, pas liberté conditionnée. Là, je vais introduire un terme qui est central dans cette analyse, c'est le ratson. Ça veut dire le vouloir. Et nous savons que le vouloir peut être conditionné, mais le Rav désigne ce qui est inconditionné dans le vouloir. Ce qui est libre dans l'âme, c'est d'abord là où elle est essentiellement ratson. Tous les pouvoirs de ce vouloir sont conditionnés, mais le vouloir, c'est cela, la liberté absolue. Et chez Yesirat Ahavaya, Ba Mitsido Achomri, Zewakol. Donc, la formation de l'être vient de son côté matériel, Zewakol, ce Yosher dont on a parlé, c'est cela tout. C'est cela le tout. Pas seulement l'essentiel, comme il a été dit au début de la phrase, mais tout. Et de nouveau, nous retrouvons le monothéisme intégral dans l'analyse suivante, que je vais essayer de simplifier. Non seulement, dans ce monde apparemment duel, Igulim Kavayosher, c'est le Kavayosher qui est l'essentiel, quelles que soient les apparences, mais il n'est pas seulement l'essentiel, il est tout. Ça veut dire que même dans les Igulim eux-mêmes, c'est le Kavayosher qui est l'essentiel et qui travaille. Ce qui fait être les Egoulim, c'est le Kavayosher lui-même. Vous voyez comment, en un paragraphe, le Rav veut nous dire d'abord l'essentiel des données. Il n'y a de solution au problème moral, donc au problème religieux, donc au problème humain, selon le monothéisme hébraïque, que si d'abord on redécouvre cela, que les Egoulim l'immensité de ces mondes qui nous contraignent dans leur détermination ne sont rien par rapport au Kavayosher. Si une aventure se passe dans l'histoire des mondes, c'est l'aventure du Kavayosher. Il faudra donc rendre compte, secondement, pas secondairement, mais secondement, pourquoi il a été besoin des Egoulim entre-temps. Est-ce que c'est bien clair? Et je le dirais de façon très simple, ça renforce d'autant tout ce que la tradition juive a mis dans l'expression « Aolam Hazeh », ce monde-ci, qu'il fallait bien qu'il y ait une place pour cette histoire du Kavayosher, que nous retrouverons, surtout dans la conférence de demain soir, dans la définition de la restauration des mondes. S'il se passe quelque chose dans cette histoire des mondes, c'est qu'il y a un aboutissement, et lequel? Et dans cet aboutissement, nous verrons, mais je l'indique à l'avance, je ne sais pas si on aura le temps de parler de tout, que les Egoulim en aura plus besoin et que ça disparaîtra. Relisez Isaïe, le prophète. C'est bien clair. Alors, voilà donc la première, le premier paragraphe, et je crois qu'on peut déjà en isoler la notion essentielle. Ce conflit entre les Egoulim et le Yosher et les Egoulim, le Kav, le Rav, il est lui-même le Kav, le Rav va nous en parler. Comme avec un défi à l'atmosphère philosophique culturelle contemporaine, comme étant provisoire. Parce qu'en fin de compte, nous dit-il, tout, pas seulement l'essentiel, c'est le Kavayosher. J'espère avoir le temps de lire avec vous le petit paragraphe qu'il y a sur la deuxième page, où il y a une allusion à des chapitres assez mystérieux du Zohar, qu'il y a un niveau des mondes où il n'y a pas d'Egoulim. Mais alors là, l'insertion par l'étude, par la prière, à ce niveau des mondes où il n'y a pas d'Egoulim, donne force au Kavayosher dans les Egoulim de savoir que les Egoulim, c'est provisoire, en tout cas, ne serait-ce que ce mot-là. C'est bien clair? Donc, voilà pour le premier paragraphe. Alors maintenant, si vous avez des questions sur le sens des termes ou les notions véhiculées de ce premier paragraphe, on va prendre quelques minutes. Oui, je vous écoute. Bon, il y a des versets d'Isaïe qui disent « Il viendra un temps où ces cieux et cette terre s'évanouiront en fumée. » Vous connaissez ces versets. Je ne vais pas porter de concordance, mais vous les étudiez vous-même. C'est l'expression que j'ai employée au cours précédent. Ce monde-ci, c'est « Alma de Shikra », une expression raméenne qui signifie un monde, je ne dis pas d'apparence, comme on pourrait trouver dans certains vocabulaires d'Extrême-Orient, ou d'illusion, parce que c'est un monde réel. Sinon, on n'aurait pas des mitzvot ma'asiot. C'est sérieux. Okay? C'est sérieux, ce monde-ci. C'est le seul qui est le monde de la réalité. Et c'est, si vous voulez, son plus sur les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs sont vrais, mais ne sont pas réels, dans le sens de notre réalité. D'ici-bas, le monde d'en bas, celui dans lequel nous sommes, eh bien, il est... le moins vrai possible. Alors les kabbalistes l'ont appelé le monde Alma de Shikra, le monde du mensonge, tout est mensonger, mais il est réel. Alors ce qui se passe dans ce monde de la réalité, c'est sérieux parce que c'est là que ça se passe. Si j'inventais un dialogue des morts à la manière de Lucien, vous connaissez Lucien, le dialogue des morts en latin? Non. Bon, c'était une référence lointaine. Imaginons les ombres discutées. C'est pas du tout de la Kabbalah, hein, c'est de la culture, c'est autre chose. Eh bien, il dirait, quand on est bien ici, mais c'est là-bas que ça se passe. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et alors, attendez, j'ai pas fini. Par conséquent, nous avons toutes ces prophéties qui indiquent cela. C'est que le conditionnement, la détermination, a une finalité contingente, bien qu'elle soit nécessaire. Je vais en parler puisque la question se pose, je crois qu'elle se pose. Je pensais en parler dans les conférences, mais ça fait ce matin aussi. Elle est nécessaire pour que le Kavayosher soit situé quelque part. C'est-à-dire, pour que le Kavayosher soit libre et que son histoire ait un sens, il faut que la détermination du monde dans lequel il est situé soit assurée sans faille. S'il n'y a pas de déterminisme des lois extérieures, la liberté s'évanouit. Cette liberté humaine, pas celle que le Rav appelle « Achofesh Shebamusaga Eloki », qui est une autre liberté. Mais cette liberté nécessaire pour que notre histoire se fasse. n'a de fondement que dans le déterminisme du monde extérieur. Donc ce déterminisme est absolument nécessaire dans le sens philosophique du terme. Il est ce qu'il est, déterminé. Un miracle, c'est un miracle. Okay? Et c'est la conscience magique qui pense que tout est miracle. Il y a un certain niveau de vocabulaire où vous pouvez trouver des textes de ce genre. Attention à ne pas les lire avec une conscience magique. Parce que si tout est miracle, il n'y a pas de déterminisme, donc il n'y a pas de miracle. C'est l'anarchie. C'est la déridiction, comme on dit, c'est la conscience magique, qui est une conscience affolée, d'ailleurs. Et cela, nous l'avons étudié quand nous avons étudié le Shabbat, vous vous rappelez ? Nous sommes dans le monde du septième jour. C'est un monde où la création est devenue la nature pour que la liberté de l'histoire soit fondée, de l'histoire de l'homme soit fondée. Vous retrouvez le texte biblique. Dès que le monde est dans l'état de Shabbat au septième jour, commence l'histoire de l'homme dans le récit biblique. Je pense que c'est suffisamment clair. En philosophie, c'est un problème difficile. Parce que ces deux notions de déterminisme et de liberté se contrarient pour l'intelligence philosophique. Je vous dirai comment j'ai rencontré ce problème. Je vais essayer de l'exprimer de façon élémentaire, mais il me semble que c'est l'essentiel. L'homme de culture contemporaine pense que s'il y a de la détermination dans le monde, et il n'y a aucune raison que le fait humain fasse exception. Ça contredit le postulat de la science. Okay? Et c'est pourquoi le philosophe contemporain, est-ce qualité de philosophe, n'a pas de fondement à la notion de liberté, au principe de liberté. S'il croit au principe de liberté de l'homme, et cela arrive souvent, c'est que d'autre part il est croyant. Mais sa philosophie ne supporte pas le principe de liberté de l'homme parce qu'elle met en échec toutes ses autres certitudes. Pourquoi ? Parce qu'il y a là le postulat que ces deux notions se contrarient, se contredisent. Pour la Kabbalah, c'est exactement l'inverse. L'une est la condition de l'autre. Pour que la liberté de choix soit possible, il faut que le monde extérieur soit déterminé. Mais si c'était pour cela, c'est donc provisoire. Voilà un peu comment on pourrait le comprendre. Je pense que le principe d'analyse, là on est en plein dans le sujet, c'est-à-dire de distinguer l'univers philosophique de l'univers du discours kabbaliste. Et là, il y a deux principes radicalement opposés. Pour le philosophe, si le monde est déterminé, donc l'homme aussi. Et il n'arrive pas à s'arranger, si j'ose dire, avec son sentiment de liberté. Même lorsqu'il le répute uniquement comme sentiment, il est obligé de nous décrire l'absurde. Et c'est bien clair. Alors que pour le discours kabbaliste, non seulement il n'y a pas de contradiction, mais l'un est pour l'autre. Pour que la liberté du kavayosher soit fondée, il faut que la détermination des egoulim soit absolue. Un petit exemple, si vous voulez, en pédagogie, que je cite souvent, c'est ceci. Et on remarque cela. C'est-à-dire, un enfant qui n'a pas l'impression qu'il y a une discipline, même lorsqu'il la viole, devient affolé. Okay? La liberté, encore une fois, ne se fonde que sur la sécurité de la détermination. Alors, c'est difficile à manier en pédagogie. Quand faut-il laisser l'enfant libre ? Parce que sinon, il étouffe et il devient malade. Et c'est très difficile à guérir par la suite. Vous savez, cela, les traumatismes de l'enfant, ça donne à manger au psychologue. Et quand faut-il lui confirmer que c'est adossé à une discipline sans faille ? Parce qu'une discipline qui a des failles, ce n'est pas une discipline. Etc. Okay. Voilà un exemple. Mais je crois que dans l'analyse philosophique elle-même, c'est très important. C'est précisément pour que la liberté soit possible que le monde extérieur est déterminé. Et vous verrez, et vous comprenez pourquoi. La tradition juive, en particulier le Talmud qui en parle souvent, a une approche des miracles très différente de toute autre religion. Et elle les prend au sérieux parce qu'ils sont exceptionnels. Et ce n'est pas le sujet, mais vous pouvez l'apprendre dans d'autres études. Et donc, ça veut dire que le déterminisme, c'est ce qui est devenu dans les niveaux inférieurs des Egoulim, où il est le plus lui-même. Mais c'est devenu avec finalité, en vue de ce que l'histoire du Kavayosher soit possible. Et donc, c'est provisoire. Je dois à M. Yankelevitch, quand j'étais jeune étudiant, un concept qu'il a forgé lui-même pour parler d'autre chose, mais qui me semble extrêmement fécond. C'est l'impossible nécessaire. C'est un couple de concepts opposés, un impossible nécessaire. Il traitait du mariage, il disait que c'était un impossible nécessaire. Mais, il disait, voilà, c'est le problème de l'âme et du corps. C'est impossible qu'ils vivent ensemble, et pourtant ils ne peuvent pas divorcer sous peine de mort. Et voyez-vous, c'est cela, c'est nécessaire, dans le sens kantien du terme, je ne sais plus si on dit kantien, ça ne peut pas être autrement, c'est apodictique, diraient les logiciens, mais c'est une situation impossible, cette contradiction entre le sentiment de liberté, c'est ce qui importe dans la vie, finalement, et d'autre part la détermination du monde. Mais c'est un impossible nécessaire, donc c'est un nécessaire provisoire. Cette notion est très familière aux kabbalistes, elle est dure pour le philosophe, et elle est employable pour le littéraire. Mais quand ce n'est que la littérature, ça ne résout pas le problème. C'est au niveau ontologique même que le problème est visé. Le monde de la réalité est ce qu'il est nécessairement. Mais il est la sécurité du monde de la vérité. Et cela est provisoire. Il y a aspiration profonde à une liberté au-delà de la liberté de libre arbitre, qui n'est que la liberté de choix, et qui a sa propre finalité. Et c'est cette liberté au-delà, liberté absolue, qui est le tout de la volonté du Créateur, que le Rav désigne à la troisième ligne par « Arofesh et Bemusaga Eloki », pas la liberté relative qu'on appelle le libre-arbitre, mais la liberté de Créateur, que peut-être seuls les artistes devinent un peu de quoi il peut s'agir. Et vous voyez à quel point les kabbalistes sont des artistes.
Terrible. Démolir tout ce qu'on a appris précédemment, et la jouissance de cette liberté ne s'appuie que sur la tradition, ou enfin, disons, ce que les maîtres ont enseigné. Et je dirais simplement.
Attendez, une minute.
De la lumière et de l'ombre.
Attendez, ne mélangez pas les questions, une minute. J'aurais tendance, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, à vous suivre jusqu'au bout, sauf une expression, que c'est nécessaire de détruire tout ce qu'il y avait avant.
Pour inventer des nouvelles formes.
Et pourquoi? Alors, je vais vous dire, ça, c'est aussi un enseignement kabbaliste important, c'est qu'il y a une différence entre la vie de l'esprit et la vie de la matière. Et que cette différence est indiquée par la mémoire dans la vie de l'esprit. Je crois que personne n'a entrevu cela. Et c'est le fait que pour faire autre chose dans la vie de la matière, il faut détruire ce qu'il y avait avant. Mais dans la vie de l'esprit, ce n'est pas nécessaire. Et je crois que beaucoup de catastrophes spirituelles viennent de là. Je ne sais pas si vous avez compris toutes les implications de ce que je viens de dire. Ce n'est pas nécessaire. Les formes anciennes deviennent vénérables, mais sont gardés dans la mémoire. L'esprit n'a pas nécessité de détruire ce qu'il y avait avant pour aller vers son propre avenir. Mais laissez-moi finir. Tandis que dans la vie de la matière, c'est indispensable. Alors là, j'ai voulu enlever cette expression de votre pré-question.
Je pourrais dire que c'est comme un remaniement des lettres. Si on
pouvait... Ah bon, alors on dit...
C'est un jeu extraordinaire, en quelque sorte.
Ne dites pas détruire, parce que là... Ça, puisque nous sommes dans le sujet du
certains agencements.
Oui, puisque nous sommes dans le sujet du discours kabbaliste, ça réfère inévitablement à l'expression Shvirat HaKelim, et donc, mais dans le cas, ça se passe pas comme ça.
Ça dépend, c'est ancien, qu'ils ont des
vernis. Ça c'est Chénier. Oui. Je pense, oui.
Trouver des sens nouveaux en formant des hasards nouveaux, quelque sorte.
Oui, et vous savez. C'est un enseignement du Rav Kook qui est très important. Tu vas m'aider à le retrouver dans son intitulé. C'est la différence entre le chidouche et le chinouï. Le chidouche, c'est ce renouvellement qui n'a besoin de rien détruire, hein, un peu dans le sens que vous disiez. Alors que le chinouï, il faut détruire pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Je traduirai après dans l'essentiel. Alors le Rav disait Tsarir le kadesh et ta hadash. Velechadesh et Akodesh. Vous entendiez ça en hébreu? C'est très différent de cette tendance qu'on appelle les réformés, les libéraux, le chinouï, pour lequel il faut détruire ce qu'il y a avant pour qu'il y ait quelque chose d'autre. Et quand on détruit ce qu'il y a avant, on recommence à zéro, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le chidou, c'est autre chose. Ça, c'est dans la vie de l'esprit, ça vient de la Kabbalah. Le Rav Ashlag en a beaucoup parlé d'ailleurs, pour sa part. L'esprit change ses formes, mais ne détruit jamais les formes anciennes, alors que la matière, pour changer de forme, détruit les formes anciennes. Alors, quelle était votre question maintenant? L'agencement des lettres, oui.
Provoquer en sorte un contraste explosif pour que la lumière soit plus lumière. Par l'émergence de nouvelles significations, mais pour ça, il faut quand même provoquer
Ça s'appelle peut-être, c'est ce qui s'appelle les douleurs de l'accouchement, dans le sens traditionnel. Bien, mais je crois que vous, mademoiselle, avez une question depuis longtemps. Au dernier rang. Hein. Oui. Eh bien voilà, vous avez posé un chapitre essentiel. Je dirais que, comment on dit en français, en peu de mots, j'ai oublié le mot, succinctement, oui, l'homme va avoir, étant donné sa liberté, deux options. Soit rester l'homme, dans le sens du cavail au cher, soit accepter de devenir un être de nature, abdiquer ce qui fait de lui ce que le Rav appelle le principe de liberté. Hein. Et cet homme qui accepte d'être être de nature, tout se passe comme si la Bible appelle le serpent. C'est pourquoi je vous indiquais que c'est un chapitre important. Okay. Puisque finalement, c'est un serpent qui parle. Et d'après le Midrash, Dieu lui parle. Pour lui dire, je veux plus te parler. Mais, et d'après le Midrash, il était de station debout. Regardez bien ce Midrash. Okay. Bon, alors là, il faut marcher sur des œufs de Pâques, okay, mais vous voyez qu'il faut se méfier des symbolismes magiques. Qu'est-ce qu'on a fait de cette image du serpent dans la conscience magique, okay? Mais ce que la Bible dit dans les premiers chapitres de la Genèse à ce sujet est très clair en hébreu. Okay? C'est ce que nous appellerions, sans doute, dans notre vocabulaire contemporain, un homme qui a consenti à être de nature. Je pense que j'ai un peu répondu à votre question. Et ça rend l'homme devenu de nature, ça le rend méchant. Je crois que cette naturalisation de l'homme, naturisation faudrait-il dire, qui est fondement du paganisme, va de pair avec la violence. L'être de nature devient méchant. Okay. Il y a une très belle page de Gemara sur le fait que l'animal, naturellement, est paisible. C'est au contact de l'homme qu'il devient mouad, c'est-à-dire le fait d'être averti que c'est nocif. Okay. C'est une très belle page. Au début du premier chapitre de Baba Kama, vous voyez comment ça va à contresens un peu de la pensée contemporaine. Il y a eu des philosophies qui ont espéré chercher dans l'être de nature l'homme paisible. Mais c'est qu'on ne parle pas avec les mêmes mots de la même réalité. Okay.
Pardon. Dans la liturgie catholique, il y a une très vieille prière qui n'a plus cours depuis longtemps. Il dit nous te remercions, Seigneur, pour le nom, nous te bénissons pour les animaux privés de la parole. Alors, on ne sait pas si c'est une pensée magique, n'est-ce pas, autrefois, du temps que les bêtes parlaient, ou au contraire, s'il y a l'amorce de cette idée-là.
Écoutez, l'idée que l'animal peut être défini comme privé de la parole peut être aménagée. Mais je crois qu'il y a. Ce que je voulais rajouter, c'est ceci, pour lier à la question précédente. L'animal, en tant qu'être de nature, est normal, et donc paisible. C'est l'homme qui devient être de nature qui devient méchant. Et dans le sens que la violence va toujours avec le sacré. Or, le sacré, c'est la sainteté naturalisée. Je ne sais pas comment dire. La sainteté prise du yosher et mise dans les higoulim. Ça, c'est le paganisme. On va faire une petite apsaka avant cela. Je vous dirais que dans toutes les préfaces de l'enseignement des grands kabbalistes, il y a la consigne suivante. On n'étudie jamais le monde des Egoulim d'abord. On étudie d'abord le monde du Kavaï Osher et ensuite on induit dans le monde des Egoulim. Celui qui commence d'abord par étudier le monde des Egoulim, je crois que la plus grande manifestation culturelle contemporaine, c'est le structuralisme, vous devinez pourquoi je suppose, n'arrive jamais à se retrouver dans le Kavaï Osher. Parce que la force de la structure impersonnelle des Egoulim est telle qu'elle empêche l'esprit de se retrouver dans la lumière du Kavaï Osher. Et c'est pourquoi vous avez cette consigne absolue. Si vous voulez, je vous la lirai dans l'Esraïm même, je vais vous le chercher tout à l'heure. On étudie le Kavaï Osher et on induit par analogie dans le monde des Egoulim. Ça rend compte un peu de ce que disaient les anciens théologiens, les théologiens des anciens âges, que la philosophie est légitime à condition qu'elle soit la servante de la théologie. C'est d'abord c'est-à-dire d'abord apprendre l'espérance et ensuite s'occuper de toutes les raisons éventuelles de désespérance à cause des sphères de détermination. Vous savez, ce que ça me rappelle, c'est une blague des yeshivot, que j'ai dû vous citer à un des séminaires précédents, c'est pas vous, c'est à Jérusalem, c'est que il y a dans l'ordre des traités du Talmud quelque chose d'assez bizarre. C'est qu'on étudie le traité des divorces avant le traité du mariage. Et la blague des yeshivot que je cite, mais c'est une blague, okay, consiste à dire, à citer un adage talmudique, « Makdim refoua la makka ». Ça veut dire qu'on parle d'abord du remède avant de parler de la maladie. Mais en réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est qu'on étudie d'abord les raisons éventuelles, Dieu préserve, s'il y a un divorce, et après on s'occupe d'un mariage après lequel il n'y a pas de divorce. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Bon, ça a l'air logiquement un peu inversé, mais c'est la même idée. C'est-à-dire, on étudie d'abord le kavayosher. Après, on peut s'occuper des problèmes de détermination à l'aise, sans avoir perdu la foi et l'espérance, comme n'aiment pas dire les philosophes. Okay ? Tandis que commencer par découvrir le monde dans son aspect structurel, on évacue la personne. Et au fond, c'est très certainement ce qui est arrivé au structuralisme. Et en particulier, un grand d'entre eux dont j'étais l'élève, je ne veux pas dire son disciple, mais son élève, et qui est Lévi-Strauss lui-même, donc absolument persuadé de ça, c'est que l'homme est intérieur au sens, et pas l'inverse. La position religieuse, c'est que le sens est intérieur à l'homme. On va s'arrêter pour quelques minutes, et puis on reprendra ces questions. Les deux choses sont vraies. Et on pourrait dire ça des deux manières.
Voilà. Manitou, cours du 4 février 1986, le matin.
Qui implique la présence de l'absolu, mais à travers le processus du tzimtzum de diminution qui aboutit finalement à ce qu'il y a de présence dans le monde de la créature, et ceci est indiqué par l'expression de Kava Yosher, le Yosher de la société, qui signifie les existants dont la forme se définit par la ligne droite. Alors je vais reprendre ce vocabulaire pour le raconter de nouveau à notre sujet. En général, le vocabulaire de la Kabbalah a préféré la forme de la sphère pour désigner la limite de l'imperfection de tout ce qu'il y a d'impersonnel dans le monde, alors que la forme de la droite, c'est la limite de perfection de tout ce qu'il y a de personnel dans le monde. Le fond, c'est dialectique entre le Yosher et le Rimouli, d'après les termes de Rimouli, où la droite est la sphère dans le vocabulaire de la symbolique générale, alors les anciennes traditions religieuses aussi à cela. Et je me souviens qu'il y avait, au moment de la querelle de l'universo au Moyen-Âge, aussi cette querelle de savoir si l'être sphérique est plus que l'être droit. C'est évident que les modernes, découvrant cet être-là, ne comprennent a priori pas de quoi il s'agit. Mais il s'agit de ce problème très important, de savoir quel est l'essentiel de l'existant dans le monde, l'être qui apparaît et se manifeste sous forme d'une personne, l'être qui apparaît et se manifeste sous forme d'un personnel. Et c'est de nouveau, par rapport à notre vocabulaire, le problème nature et morale. Je vous rappelle que dans le premier paragraphe que nous avons lu hier, l'option d'entrée du texte du Rav était que l'essentiel, c'est la perspective de la droite. Et ça signifie, de proche en proche, qu'en fin de compte, la perspective sphérique est destinée à disparaître. Lorsque la stature de cet être ainsi défini selon la droiture dans les deux sens, le physique et moral, arrivera à être achevé. Que d'une certaine manière, les sphères ne sont là que pour donner une place à la droite, et une sorte de tension, de collaboration, et peut-être plus de tension que la collaboration entre ces deux polarités du monde, qui fait en fin de compte apparaître la forme de la vie. Et effectivement, la forme vivante, ce qui est la loi de toute morphologie, c'est toujours un compromis ou un équilibre entre la droite et la sphère. C'est sur un tout autre vie comme l'avait indiqué une fois dans d'autres études, un peu ce que les anciens appelaient le mystère du nombre pi. Puisque, comme vous le savez, le nombre pi désigne la relation entre la droite et la sphère. C'est évidemment la circonférence, mais c'est le même problème. Bien. Voilà, en tout cas, pour cette précision de vocabulaire, je voudrais revenir sur ce problème. Vous voyez, encore une fois, à quel point cette structure de discours est très simple et à quel point, pour être comprise, elle doit être expurgée complètement de toute tentation de symbolisme formel qui mène au paganisme ou à la pensée magique et qui fait exister des mythes qui, en fin de compte, sont tous des mythes dévastateurs. Et je vous le dirai encore d'une autre manière. C'est que tous ces mondes dont nous parlons, j'y ai fait allusion au premier cours, je crois, ou peut-être aussi au second. Tous ces mondes dont nous parlons et sur lesquels nous reviendrons assez rapidement parce qu'il ne reste plus qu'une journée d'études, eh bien, ont une existence réelle de haut en bas, mais absolument aucune de bas en haut. C'est encore une fois un principe de la tradition biblique et de la tradition juive qui s'exprime surtout dans la liturgie et qui est extrêmement important à comprendre, qui va nous donner une définition supplémentaire encore de la tentation du paganisme. C'est-à-dire, entre l'absolu et nous, qui représentons le projet de cet absolu voulant créer l'autre en cours de réalisation, et donc situé si loin en bas, il y a toutes ces hiérarchies d'intermédiaires. Et elles existent réellement de haut en bas, ou disons de la périphérie au centre. Mais entre nous, situés dans ce centre, dans ce en bas, je ne dirais pas ici-bas, eh bien, et l'absolu, il n'y a rien qu'un face-à-face direct. Prendre une perspective différente, c'est très exactement définir le paganisme. Le paganisme consiste à s'adresser à ces hiérarchies intermédiaires comme si elles existaient de bas en haut. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, d'ailleurs vous allez vous-même m'interroger, c'est pourquoi vous trouverez cet apparent paradoxe que j'essaye de vous expliquer très simplement, qu'alors que du point de vue de la connaissance, la tradition juive possède la connaissance de toutes ces hiérarchies, et elles sont encore une fois infinies, je me borne qu'à récapituler les grands schémas très succinctement, inversement, dans la liturgie, il n'y a aucune trace de cette relation à l'infini, à l'absolu, à travers ces intermédiaires. Plus que cela, c'est là précisément l'interdiction de l'idolâtrie et du paganisme. Je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, vous allez me le dire immédiatement. Je répète, la cassette n'est pas enregistrée, okay, ben ça a l'air. Vous avez la parole. Et donc, j'ai ajouté deux choses du point de vue du vocabulaire. C'est la distinction entre l'être du monde en tant que nature, dans le vocabulaire de la Kabbalah, c'est les sphirot des égoulim, les sphères sphériques. Et l'être du monde en tant que personne, à la limite l'homme, lequel homme, il y a des conditions, mais à la limite, le vocabulaire de la Kabbalah l'appelle le kavayosher, et d'emblée, au niveau du vocabulaire même, sémantiquement si j'ose dire, le projet homme, la ligne droite et le projet de droiture, la morale, se dit dans la même formule, et toute l'histoire de notre histoire étant le conflit entre ces deux polarités, nous avons déjà appris précédemment la nécessité de l'une et de l'autre, et vous rappelez ce qu'il y avait là hier soir, le petit point d'analyse où j'ai indiqué que c'est là la source corollairement de la nécessité dans le sens déterministe scientifique du terme, des lois de la nature comme condition de la liberté de la personne, et le conflit qui en résulte, et tous les risques de chaos qui peuvent en résulter dans cette tension entre la liberté de la personne et l'absolue détermination des lois des sphères, si j'ose dire, et d'autre part, l'origine de ce que nous appelons en termes humains le mal à ces deux niveaux, mal physique et méchanceté humaine. Et voilà donc ce que je voulais rappeler. Si vous avez des précisions à demander. Ken. Attendez, chacun dans l'ordre.
Oui, j'aurais deux questions.
La première, vous en avez déjà touché un mot hier, c'est la suivante. Le monde a été créé par Dieu pour que ce soit le lieu de l'homme, le lieu où se situe l'homme. Et la question est la suivante, pourquoi avoir créé un monde aussi énorme, aussi grand, aussi démesuré par rapport à la petitesse de l'homme, ce que nous sommes ?
Une minute, je voudrais noter vos questions, vous allez me les rappeler. Quelqu'un a une feuille, peut-être. Parce qu'il y a au moins 3 ou 4 questions dans une seule phrase. Voilà, écoutez, d'abord une petite précision de vocabulaire. J'en profite puisque nous sommes en travaux pratiques, si j'ose dire. Vous avez dû remarquer que les textes auxquels nous sommes référés, en parlant de la source de l'être absolu en tant que créateur, ne disent pas encore le mot Dieu. C'est à un certain niveau de la relation au monde que ce terme apparaîtra, et il signifie, dans le sens strict, en hébreu, le mot Elohim, la relation de souveraineté à travers la Midat Hadin, c'est-à-dire cette modalité d'être qui exprime cette dimension de la détermination des lois, la rigueur, okay. C'est donc à un certain moment, uniquement au niveau Bria, que le mot Elohim apparaît, dans la relation entre le Enso, c'est-à-dire l'absolu infini, et le monde, créature, l'autre que lui. Bien, c'est une petite... D'autre part, ce qu'il faut comprendre, et je ne sais pas si nous l'avons déjà touché dans nos études, c'est ceci. Finalement, l'homme sera donné à une épreuve. Et je l'ai formulé, il me semble, dans un des cours précédents, de cette manière, du côté de l'homme, est-ce que j'ai déjà mérité d'avoir été créé ? Du côté de Dieu, est-ce que j'ai bien fait de l'avoir créé ? Il y a donc tout un temps provisoire de silence réciproque jusqu'à ce que cette épreuve se dévoile. Lorsqu'elle est suffisamment dévoilée positivement, il y a le phénomène révélation face à face. Je reprends par là la description du récit biblique, en vous renvoyant aux expressions bibliques elles-mêmes. Je pense que c'est bien clair. Et cette mise à l'épreuve demande ce que je vous appellerai l'extériorité dans le temps et l'espace des créatures, pour que la relation à autrui entre les créatures puisse s'installer, il faut extériorité des différents kavim, selon ta question, des différents nekuda emtsait, vous vous rappelez de cette expression, de telle sorte que la relation à l'autre entre créatures puisse être fondée, posée. Il faut donc qu'en fin de compte, nous soyons situés très loin de cet être originel absolu, dans un monde dont la définition serait l'extériorité spatiale et temporelle. Pour en arriver jusque-là, étant donné qu'à la racine de l'être absolu, tout ceci est substance simple, pour rappeler, pashut, alors il y a un éloignement considérable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est premièrement, je reprends maintenant les termes de votre question, quand vous dites l'homme une toute petite chose, c'est vrai et c'est le contraire, c'est à la fois une toute petite chose apparemment et la chose la plus importante du projet de la création. Vous rappelez la notion de microcosme, que l'identité humaine récapitule tous les mondes enfermés sous forme de résumé, si j'ose dire, dans l'enveloppe charnelle d'une petite personne humaine, apparemment rien, un ver de terre, comme dit la Bible, sur la surface de la terre. Je ne voudrais pas faire trop de poésie, mais enfin, c'est finalement l'existant le plus petit et le plus grand à la fois, d'une part, et d'autre part, la nécessité de tous ces intermédiaires qui, en fin de compte, deviennent notre univers, à la limite, le système solaire, pour que cette présence à l'abri de ce que serait l'écrasement par l'impétuosité de l'absolu puisse se faire. Est-ce que c'est suffisant comme...
Voilà, ça va. J'aurais une deuxième question, oui, qui est dans un autre domaine, qui est la suivante. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on parle de la création de Shamaïm et Aretz, et ensuite le texte parle de Ruach Elohim Merachefet al Pene Amayim.
Merachefet al Pene Amayim.
Et
il m'arrive de ne pas très bien saisir la création de Mayim. Est-ce que Mayim découle d'une manière ou d'une autre de Shamayim, ou est-ce qu'il y a une autre interprétation, car le texte ne parle pas de la création de l'eau en réalité.
Est-ce que vous en connaissez une interprétation déjà, ou bien c'est une question pure et simple?
J'ai déjà posé la question et on m'a répondu laconiquement que ça sera attaché à Shamayim.
Oui, alors c'est pas moi qui ai dit ça.
Non, ce n'est pas moi qui ai dit ça.
Top, c'est tout. Ne citez personne.
Je n'ai pas cité de nom. Oui. Je ne cite pas de nom. Simplement, on m'a répondu qu'il y avait un rapport avec Shamayim. Je ne l'ai pas très bien. Enfin, bon, il y a Mayim, au niveau des mots, c'est un peu ce sort, c'est ça, mais j'aurais souhaité avoir votre explication.
Oui. Écoutez, dans tous les cas, je vous signale que ce n'est pas la mienne, je vais vous citer des sources, je vais faire des citations. Il y a un certain nombre de termes qui désignent des réalités qui apparemment n'ont pas été objet du créé qui est dit dans le premier verset. Je vous les signale. Si vous avez votre texte sous les yeux, le premier verset dit « Bereshit, au commencement, Bara Elohim, Dieu avait créé, et Hashamayim, et ce « et » je vous l'ai souvent signalé, c'est un mot qu'on ne traduit pas dans d'autres langues que l'hébreu, qui indique le complément d'objet, mais qui a un sens pour lui-même, qui signifie l'essence de, la présence de. Il y a un mot technique qui vient du latin qui est l'ipséité, ce que chaque être ou existant est en lui-même, ipsé. Donc l'ensemble de ce qui fait le ciel et tout ce qu'il renferme, si vous voulez, pour le paraphraser, de tout ce qui fait la terre et de ce qu'elle renferme. Et ensuite, « Ve'aret, or la terre, haïta était devenue, tohu vavohu, ce que nous avons traduit par tohu vohu, et obscurité alpeneteum, et ve'choshech alpeneteum, obscurité à la surface de l'abîme, du vide absolu, ve'ruach elokim, et l'esprit de Dieu, merachefet alpeneamaim, qui voltait sur la surface des eaux. » Vous avez trois termes qui sont indiqués, dont les initiales forment le mot « emor », qui signifie « dire, parler », le monde créé par la parole. Je ne reviens pas sur ce détail. Or, je vais vous donner deux explications. La première, c'est l'analyse du mot « maïm » tel qu'il se trouve au niveau de la lecture kabbaliste de l'hébreu dans ce deuxième verset. Vous savez que Maïm est traduit, en fin de compte, dans le Olama Asiya, dans le monde de l'acte, par le terme de l'eau. Mais qu'en hébreu, il est au duel. C'est un pluriel qui est un duel, Maïm. Alors qu'il n'y a pas de singulier en hébreu pour dire ce que nous appelons l'eau dans le monde de la réalité. Alors que ce singulier existe, par exemple, en arabe. Il se dit al-ma, en arabe. C'est le mot ma. Alors, ce mot ma existe cependant en hébreu, avec un tout autre sens. C'est la chose, ma, le quid en latin. Et donc, le mot de maïm va être lu comme étant le pluriel collectif des choses, de toutes les choses en général, les choses élémentaires prises dans un ensemble. Les ma, ça s'appelle les maïm. Est-ce que c'est bien clair? Dans une autre analyse, nous verrions que c'est un autre terme pour désigner ce que l'expression Tohu Vavohu dit dans le deuxième terme de Bohu. Je vous en donner une explication très rapide, mais il me semble en avoir parlé il y a une dizaine d'années, probablement. Et que la limite du mot Tohu, c'est Tehom. Tohu, le vide, on avait traduit de ce côté, égarement, rappelez-vous plus qui était là? Évidemment, non, évidemment c'est Itroknout. Attendez, au premier cours, quelqu'un m'a posé la question. C'était vous qui étiez là? Ma? Je ne sais pas comment il est. Ah, probable. Qui avait cité Rashi?
J'avais posé, justement.
Ah, c'était vous? Ah, c'était vous.
Il y a aussi le mot frayeur.
Et quel est le mot en hébreu? Vous ne vous rappelez pas? Non.